Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, Affaires sensibles vous propose de réécouter l'histoire du référendum pour le traité de Maastricht. Début 1992, les 12 États membres de l'Union européenne à l'époque se retrouvent confrontés à un choix crucial. Faut-il passer par les parlements, largement acquis à la cause européenne, ou par le référendum, par nature plus risqué ? Sur les 12 pays que compte la communauté économique européenne d'alors, 3 seulement vont faire ce pari, l'Irlande, le Danemark et, à la surprise générale, la France. S'ensuit un débat politique intense. Les avocats du non sont de tous bords. Philippe de Villiers, Jean-Pierre Chevènement, mais aussi Philippe Séguin, qui, aux côtés de Charles Pasqua, va particulièrement s'illustrer dans cette campagne. Face à eux, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing et la majorité du Parti Socialiste. François Mitterrand, l'un des grands promoteurs du traité, s'engage à fond, bien sûr, et vient le défendre au cours notamment d'une grande émission de télé présentée par Guillaume Durand. Ce sera le point culminant de ce grand débat national. Le 20 septembre 1992, le traité est accepté de justesse. Le oui l'emporte par 51,04% des voix. 26 ans plus tard, autrement dit aujourd'hui, l'Union européenne est plus que jamais fragilisée dans presque tous les pays de l'Union. L'audience des partis populistes s'accroît à tel point qu'ils gouvernent maintenant l'Italie, troisième puissance économique de la zone euro. Alors, pourquoi l'Europe, présentée en 1992 par les tenants du traité de Maastricht comme la solution, apparaît-elle pour les peuples qu'elle fédère le problème? Une question en forme de désillusion sur laquelle nous allons revenir et réfléchir après le récit avec notre invité Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Joanne Denain, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Et 10 décembre 1991, Maastricht, petite ville au sud des Pays-Bas. C'est là, dans le palais du gouvernement provincial, que se retrouvent les chefs d'État et de gouvernement pour les dernières discussions sur le traité qui porte le nom de cette commune néerlandaise. Au menu, naissance de l'Union européenne qui remplace la communauté économique européenne avec monnaie unique, affirmation d'une citoyenneté européenne, politique étrangère et de sécurité commune, coopération sur la justice et les affaires intérieures. Les grandes lignes en ont déjà été discutées depuis 2 ans. 2 années qui ont chamboulé l'Europe, avec en novembre 1989 la chute du mur de Berlin qui précipite la décomposition de l'Union soviétique. Quelles vont être les nouvelles frontières de la future Union européenne? Aura-t-elle vocation à accueillir les pays de l'Est, par exemple? Au cœur de cet échiquier, l'Allemagne, bien sûr, un pays puissant. Trop puissant. On a la réponse aujourd'hui, mais à l'époque et après la réunification, c'est déjà le pays le plus riche d'Europe. « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux », aurait dit Mauriac 40 ans plus tôt. Cette phrase résonne dans l'esprit de François Mitterrand qui, comme beaucoup d'autres, craint que ce pays renoue avec ses vieux démons. Sur ce point, Helmut Kohl, un Européen convaincu, se montre rassurant, avenant même.
Celui qui a peur des Allemands aujourd'hui, eh bien, il faut tout d'abord analyser ses craintes. De quoi avez-vous peur? Du point de vue militaire, c'est absurde. L'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire et ne le deviendra pas. Ce n'est absolument pas notre volonté. Mais la meilleure façon de lever la crainte, mais c'est bien l'intégration politique européenne, c'est le seul argument vraiment convaincant. Naturellement, ma politique n'a absolument pas changé. Lorsque je parle de l'Allemagne et de la France, bien, je dois d'abord parler de l'Europe et ensuite de l'Allemagne et de la France. Les deux choses sont inextricablement liées. Je suis absolument résolu à mettre en œuvre le préambule de notre Constitution, tant que je serai en mesure de le faire. La Constitution dit « Nous voulons l'unité allemande et l'unification politique de l'Europe ». Ce sont les deux faces d'une même médaille.
Première round, l'union économique et monétaire. Le système monétaire européen en 79, puis le marché unique Jacques Delors dans les années 80, ont fait leurs preuves. L'Europe économique fonctionne. Il faut donc maintenant parachever ce grand marché avec une monnaie unique. Mais la Grande-Bretagne préfère une monnaie commune, une monnaie de référence qui permet d'harmoniser les politiques monétaires, certes, mais tout en laissant une souplesse aux États. Car la monnaie unique, elle, suppose trop de contraintes aux yeux des Britanniques, à la tête desquels la mise en place d'une autorité financière de régulation, la future Banque Centrale Européenne, ainsi que l'application des fameux critères de convergence, maîtrise des dépenses publiques avec un déficit inférieur à 3% du PIB, maîtrise également de l'inflation et des taux d'intérêt. Ces critères de Maastricht, diront certains, vont rester jusqu'à aujourd'hui le symbole de la domination d'une Europe sans visage sur les politiques économiques nationales. Pour l'Allemagne et pour la France, cette Europe monétaire doit être accompagnée d'un volet social qui, avec l'Europe de la défense, sera au cœur des discussions du lendemain qui s'annonce rude. Deuxième round, mardi 10 décembre 91. La journée commence tôt, avec au petit déjeuner un tête-à-tête désormais rituel lors des sommets européens entre les deux alliés, François Mitterrand et Helmut Kohl. Et les entretiens sont toujours dominés par les résistances britanniques. Sur l'Europe de la défense, les débats sont tendus, elle qui n'a pas su affirmer une position commune face à la guerre du Golfe et au leadership américain. Plus grave, à 2 heures d'avion de Paris, c'est la guerre en Yougoslavie qui fait rage au sein d'une Europe conçue précisément pour éviter la guerre. Mais les États membres, là encore, ne parviennent pas à se mettre d'accord pour intervenir dès le début du conflit. À 18h, le tandem franco-allemand parvient à faire accepter aux 12 l'idée d'une défense commune. Oh, les résultats sont timides. Toute décision requiert l'unanimité, ce qui est évidemment difficile, voire impossible, car qui dit unanimité, dit droit de veto. Un seul pays refuse un accord, il n'y a plus d'accord. Quant aux discussions sur l'Europe sociale, elles butent sur le refus de la Grande-Bretagne qui ne veut pas perdre sa compétitivité. Alors, à 1h30 du matin, c'est un François Mitterrand visiblement fatigué qui annonce la fin du sommet.
Fin 1991, cette charte accompagnera la politique sociale. Seulement, elle l'amènera à 11, en raison du souhait de la Grande-Bretagne de rester au dehors.
On doit cet arrangement de dernière minute à la Hollande, mais à 2h du matin, John Major se félicitait d'avoir tenu bon, non sans une certaine ironie. En matière sociale, le texte du traité n'est pas changé par rapport au traité de Rome. Il n'y a pas d'extension des pouvoirs de la communauté, pas de majorité de vote supplémentaire, il n'y a pas de nouveau texte de traité sur l'Europe sociale.
Quelques semaines plus tard, le 7 février 1992, le texte est enfin signé par les chefs d'État et de gouvernement. Alors, est-ce enfin le jour tant attendu qui, depuis la signature du traité de Rome en 1957, consacre l'Europe ? Est-ce le grand soir de l'union des peuples ? Le problème, c'est qu'en France, nous sommes à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville. Donc du sport, du fun et surtout du concret. Autant dire que face à cet événement, le traité européen compliqué et conceptuel intéresse peu. Du reste, ce soir-là, au journal télévisé, l'ambassadeur français auprès de ce qui est encore la CEE ne parvient pas à convaincre.
C'est un traité qui lui-même porte en germe des négociations complémentaires et des avancées complémentaires qui se feront dans les, disons, les 8 ou 10 ans qui viennent. Et par conséquent... Ce traité, en quelque sorte, est une étape dans un processus qui a démarré au moment où a été signé le traité de Rome et qui n'est pas achevé encore.
Ce traité doit être ratifié par tous les États membres et chaque pays doit maintenant faire un choix, ratification par les parlements ou référendum populaire. Le 3 juin 1992, François Mitterrand crée la surprise lorsqu'au terme d'un conseil des ministres, il annonce tranquillement son choix, ce sera le référendum. La France rejoint donc l'Irlande et le Danemark où la veille de ce 3 juin, le peuple s'est prononcé contre le traité de Maastricht à une très courte majorité. En France, le tableau est sombre. Le chômage persiste, l'affaire du sang contaminé empoisonne la chronique et les erreurs d'Élise Cresson qui vient d'être remplacée par Pierre Bérégovoy ont affaibli le président. Les dernières élections régionales, 3 mois plus tôt, ont infligé une sévère défaite au Parti Socialiste. François Mitterrand est particulièrement impopulaire, le second septennat s'essouffle. Côté politique, le débat sur le traité de Maastricht a déjà commencé. Depuis 2 mois, le Parlement et le Sénat sont en pleine discussion. Le Conseil constitutionnel estime que pour ratifier le traité de Maastricht, il faut réviser la Constitution française, pas moins. Les premiers votes au Parlement et au Sénat confirment que cette révision sera bel et bien votée. Mais des voix dissonantes s'expriment. Un homme particulièrement déterminé ouvre et anime le débat. C'est Philippe Séguin, brillant énarque de 49 ans à l'époque, député des Vosges, orateur de talent. C'est lui qui ouvre les hostilités contre le traité de Maastricht, mais aussi contre la majorité de son camp, le RPR, comme ici, à l'Assemblée nationale, le 5 mai 1992, où, comme beaucoup d'opposants à Maastricht, il prononce « Maastricht ».
On ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique, mis au point à Maastricht, est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789.
Cette intervention de Philippe Séguin va diviser le RPR. Plus largement, elle lève un tabou au sein des grands partis politiques. Et la parole se libère, bien au-delà d'ailleurs, du parti néo-gaulliste.
Dans sa croisade anti-Maastricht, Philippe Séguin a en effet agrégé sous sa bannière beaucoup plus de volontaires que prévu. Il y a bien sûr les brigades du Parti communiste, quelques mercenaires socialistes autour de Jean-Pierre Chevènement, deux ou trois têtes brûlées de l'UDF comme Philippe de Villiers ou Alain Griotret, et surtout plusieurs escouades de gaullistes, près d'une soixantaine de fantassins prêts à se battre pour la défense de l'héritage.
Dans ces conditions, pourquoi tenter le pari risqué d'un référendum ? D'abord et avant tout pour légitimer la construction européenne. Deux jours après son annonce d'un référendum, François Mitterrand se justifie lors d'un déplacement à Sciences Po face à une salle déjà divisée sur la question.
J'ai choisi, comme vous le savez, le référendum. C'est plus risqué, c'est vrai, et je le sais. C'est risqué pour l'Europe, c'est risqué pour le gouvernement et la majorité. C'est risqué pour le président de la République. Il faut donc engager un combat démocratique. Et ce débat n'aurait pas eu lieu autrement. Les députés et les sénateurs auraient continué de discuter, personne ne s'y serait intéressé. Or, il faut que dans chaque village, que dans chaque commune, que dans chaque quartier, dans chaque rue, il y ait une formidable explication, puisqu'il s'agit et de la France et de l'Europe.
Autre explication, plus tactique, il s'agit surtout de surprendre ses adversaires politiques. Car l'idée du référendum ne vient pas du Parti Socialiste. La plupart de ses membres, favorables au traité, ont en effet une crainte que le peuple vote contre François Mitterrand. D'ailleurs, tous les autres partis ont exigé un référendum, des communistes jusqu'à l'extrême droite, en passant par le RPR de Jacques Chirac, évidemment, la belle affaire. Il n'y a qu'à l'UDF que le débat est ouvert. Valéry Giscard d'Estaing, européen jusqu'au bout des ongles, craint de perdre sur les deux tableaux. Si le oui l'emporte, son adversaire de 1981, qui a osé lui ravir l'Élysée, sera renforcé. Et en cas de victoire du non, Maastricht et donc l'avenir de l'Europe seront condamnés. En fait, le chef de l'État aurait attendu que ses adversaires politiques lui demandent ce référendum tout en l'estimant peu probable, car trop risqué. Mais l'occasion était trop belle de leur couper l'herbe sous le pied. Bien, mais pourquoi François Mitterrand a-t-il attendu le mois de juin pour l'annoncer ? Le calendrier électoral pourrait aussi expliquer cette annonce tardive, car le vote doit se tenir le plus tard possible. En mars 1993, en effet, les élections législatives risquent d'imposer au chef de l'État une seconde cohabitation. Ce débat public sur le traité de Maastricht aura l'avantage de mettre au grand jour les divisions internes de la droite, voire de l'affaiblir du Mitterrand pur jus. La consultation des Français par référendum va donc se tenir le 20 septembre 1992. 14 juillet de cette année-là, c'est le traditionnel garden party de l'Élysée. Lors de la non moins traditionnelle interview liée à cet événement annuel, François Mitterrand mise sur la responsabilité des Français tout en prenant soin d'écarter l'idée d'un plébiscite. L'homme est réaliste, mais confiant. Dans les jardins d'Élysée, on parie que le oui a toutes les chances d'atteindre les 55%. Deux semaines auparavant, le président confiait même à l'un de ses proches qu'il pourrait l'emporter à 60%. Mais en ce jour de fête nationale, limite iconoclaste, c'est Elisabeth Guigou qui tire la sonnette d'alarme. La ministre déléguée aux Affaires européennes est la seule du gouvernement à être entrée en campagne pour défendre le traité. Mais son constat est lucide. Les Français sont sensibles aux arguments du non, qui progressent d'ailleurs au cours de l'été. Convoqué par le chef de l'État, un dirigeant d'Ipsos montre que le plancher du oui est à seulement 52%. Fin juillet, le chef de l'État sent le vent tourner. Alors il rassemble ses troupes et confie la riposte à Jack Lang et Elisabeth Guigou. Il faut mettre en œuvre une stratégie de conquête. Mais faut-il mener une campagne spécifiquement socialiste ou au contraire harmoniser les arguments de l'ensemble du oui droite incluse ? Là où Jack Lang veut inviter les people à défendre le oui, Jacques Pilan et Hubert Védrine veulent mobiliser la France profonde. Autre question, faut-il dramatiser les conséquences du non ? Expliquer que cet échec serait terrible pour la construction européenne. La campagne pour le oui va user de cet argument. Si vous êtes pour la paix, vous êtes pour l'Europe et donc vous êtes pour le traité. Ainsi, s'opposer au traité serait d'une certaine façon laisser la porte ouverte à la guerre. Cet argument extrême ne propose rien de positif. Ne reposant que sur la peur, il n'aide pas le camp du oui. Face en tout cas aux arguments des partisans du non qui tiennent en une phrase « Oui, on peut être pour l'Europe et contre le traité, et mieux encore, c'est parce que nous sommes pour l'Europe que nous sommes contre le traité ». Hormis le Front National, les opposants affirment haut et fort leur désir d'Europe, mais d'une autre Europe. Alors, durant tout l'été, tandis qu'Elisabeth Guigou sillonne les plages à la rencontre des Français, Philippe Séguin, lui, dans un style plus classique, choisit de faire une tournée de conférences dans la France entière où il affirme une autre conception de l'Europe.
Il y a deux conceptions qui s'affrontent. Il y a une conception à vocation supranationale, à finalité fédérale, qui cherche à réaliser un seul État. Et puis il y a une autre conception qui pense que les États-nations n'ont pas fait leur temps et qui cherche à construire une Europe qui serait appuyée sur les États-nations en question. Le propre de Maastricht, c'est de trancher entre ces deux conceptions et, à mes yeux, de faire mauvais choix.
Au RPR, le camp du non voit dans ce traité une perte de souveraineté nationale sur des sujets aussi variés que la monnaie unique, la citoyenneté européenne, le droit de vote pour les ressortissants européens dans les élections locales ou la politique commune d'immigration. Au PS, Jean-Pierre Chevènement profite également de l'été pour faire sa campagne. Il fonde le mouvement des citoyens et réunit lors de conférences publiques communistes refondateurs, socialistes contestataires et verts, résolument à gauche. Le point de départ est le même qu'à droite. Le traité de Maastricht implique une perte de souveraineté. Mais Jean-Pierre Chevènement insiste sur l'une des conséquences, le chômage.
Je crois que il y a un déficit démocratique certain. On n'a pas assez parlé concrètement de la manière de faire la construction européenne. Trop de décisions se prennent d'une manière totalement antidémocratique. Et puis la montée du chômage ne peut quand même pas s'expliquer facilement si on ne met pas en relief le rôle joué par les contraintes monétaires dans notre politique économique depuis au moins 1983. Alors, cette Europe de Maastricht, c'est une Europe qui va renforcer les disciplines monétaristes, les politiques dites de convergence, qui vont grossir le chômage avec toutes les fractures sociales que cela implique.
En fait, c'est la crainte d'une Europe libérale qui s'affirme à gauche. La politique des États en matière économique devra se conformer au principe de libre concurrence. Si la banque centrale sera indépendante des gouvernements, certes, elle ne le sera pas des marchés financiers. De son côté, François Mitterrand passe son été à préparer le grand débat télévisé qui, le 3 septembre, sera le temps fort de cette campagne. Mais ce qu'on sentait arriver arrive. Fin août, le non est donné gagnant à 52%. Côté socialiste, c'est la mobilisation générale. Hubert Védrine, alors secrétaire général à l'Élysée, donne le ton. Il faut reconquérir les suffrages voix par voix, lance-t-il à toute son équipe, faire basculer les indécis. Chacun doit téléphoner à 50 personnes dans son entourage. Bref, il faut aller chercher la victoire avec les dents. Jack Lang et Elisabeth Guigou convoquent alors l'ensemble des directeurs et des chefs de communication des différents ministères et l'atmosphère se tend dans l'entourage du chef de l'État. Certains, comme le président de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli, ou le secrétaire d'État à l'enseignement technique, Jean Glavany, reprochent au président de s'être lancé dans cette aventure. Ne devrait-il pas, pour sauver l'Europe, annoncer son départ? Aurait-il songé quelque part à imiter De Gaulle et son référendum suicide de 69? Dans le monde entier, les bourses, elles aussi, réagissent au sondage. Que le nom monte et elle plonge. Les Français, eux aussi, se prennent de passion pour le référendum. Une vingtaine de pamphlets d'analyse recouvrent les étals des librairies. En tête, les deux mousquetaires du nom, Philippe de Villiers et Philippe Séguin, avec plus de 50 000 exemplaires de leurs livres déjà vendus en ce début septembre. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui, le traité de Maastricht. Le 3 septembre 1992, c'est le grand jour pour convaincre les derniers indécis. Plus de 8 millions de Français vont assister au grand débat diffusé sur TF1 depuis l'amphithéâtre de la Sorbonne, un lieu solennel où François Mitterrand joue sa dernière carte. L'émission dure plus de 3 heures. Elle commence par un entretien avec Guillaume Durand, au cours duquel sont abordés les grands points du traité. Ensuite, le président répond à 14 Français soigneusement sélectionnés. Un dispositif qui court-circuite les élites politiques, médiatiques, la nomenclature institutionnelle. Pour un référendum, on peut le comprendre, mais cette méthode va s'imposer ensuite et jusqu'à aujourd'hui pour n'importe quelle élection alimentant la démocratie du moi-jeu aux dépens du débat de fond. Toujours est-il que ce jour-là, le chef de l'État est volontiers pédagogue face aux questions du panel. Ensuite, il répond aux questions de 3 journalistes. Et là, évidemment, c'est un peu plus difficile, notamment avec ce vif échange avec Jean d'Ormesson.
Jean d'Ormesson.
Monsieur le Président, vous êtes dans une situation terriblement paradoxale.
Ah.
Vous êtes, on le voit bien ici, le meilleur et le principal animateur de Maastricht.
C'est bien aimable.
Et vous le savez aussi, le principal obstacle à Maastricht.
Selon vous?
Selon les sondages.
Selon quelques autres, vous avez raison. Vous n'êtes pas le seul à le penser.
Je voudrais vous demander si l'idée ne vous est jamais venue de sacrifier votre carrière personnelle à une cause qui la dépasserait de très loin.
Ça m'est arrivé déjà.
Eh bien, ce soir, ici, maintenant, si vous annonciez, comme vous le demandent, non pas seulement les adversaires, mais je crois bien des amis, qu'en cas de victoire du non, je veux dire qu'en cas de victoire du oui, Excusez-moi, c'est le lapsus inévitable. Nous n'en parlons.
J'ai parfaitement compris ce que vous vouliez me dire. Ne vous en excusez pas.
En cas de victoire,
en somme, on me demande de partir en cas de oui et en cas de non.
Absolument. Vous avez raison.
Le corps est malade, mais l'esprit est toujours là. Dernière partie de l'émission, le chef de l'État débat avec un Philippe Séguin, référent, visiblement impressionné par son adversaire, on peut le comprendre.
Je vous ai entendu développer une théorie originale qui est la théorie de l'accident. Pour le reste, je n'ai pas grand-chose à vous répondre, parce que vos critiques portent essentiellement sur l'Europe telle qu'elle a existé, et pas du tout sur le traité de Maastricht tel qu'elle doit exister. Alors, je n'ai rien à vous répondre là-dessus.
Et pourtant, il se trouve, Monsieur le Président de la République, qu'il y a beaucoup de Français qui sont acquis à l'idée européenne et qui ne peuvent accepter ce traité de Maastricht.
Je pense que c'est votre cas.
C'est probablement mon cas, oui.
Non, probablement seulement.
Plus que probablement.
Oui, quelquefois, je me pose la question.
Mais je me réserve, Monsieur le Président de la République, jusqu'à la fin de notre discussion. Oui. Il serait irrévérencieux vis-à-vis de vous de conclure trop tôt.
Les commentateurs de l'époque sont unanimes. François Mitterrand a su gagner des points pour le oui dans cette émission, avec des arguments solides au cours d'un débat de qualité, alors qu'en principe, une émission de télé ne fait pas basculer une élection. Exceptionnelle aussi la combativité du président. Martyrisé par son cancer, il fait preuve d'une ténacité, d'un courage physique qui aujourd'hui encore suscite l'admiration. Comme en témoignent Guillaume Durand et Étienne Moujotte, alors patron de TF1 qui diffusait le débat, tous deux racontent ce qui se passe pendant la coupure de publicité demandée par l'Élysée.
Et moi, ils m'ont rien dit. La seule chose que je savais, c'est qu'un jour, peu de temps avant le début, je crois qu'ils avaient réclamé une coupure de pub.
Et en réalité, elle a permis à François Mitterrand de prendre quelques minutes de repos. Et au moment de la coupure, je l'ai raccompagné dans ce qu'était sa loge. C'était une petite salle de la Sorbonne. Ça n'avait évidemment rien d'une loge de télévision. Et il s'est enfermé avec le docteur Hubler.
Séguin revient. Mitterrand ne revient pas. J'ai Moujotte, moi, dans l'oreillette, qui me dit, on sait pas où il est. Tout d'un coup, je me suis retrouvé seul avec Séguin, quand même assez imposant, cette espèce de Falstaff pied noir qui attendait dans un coin. La Sorbonne bourrée, un orchestre prêt à démarrer, Mitterrand, rien. Et Moujotte qui me dit, on sait pas où il est. Il va revenir. On sait pas où il est. Il va revenir.
Et puis, François Mitterrand est sorti. Il avait l'air damné, comme on dit. Et puis, on l'a ramené sur le plateau, il est revenu sur le plateau, il s'est assis, et là il a engagé le débat avec Philippe Séguin, débat extrêmement brillant, enfin où il a vraiment, peut-être là, sinon gagné le Maastricht, du moins marqué des points formidables.
Une semaine plus tard, le 11 septembre 1992, François Mitterrand est hospitalisé et révèle enfin, après plus de 10 ans de silence, son cancer de la prostate. Quelques jours plus tard, à sa sortie de l'hôpital, face à un journaliste qui semble s'excuser de lui poser la question, il conserve toute sa répartie.
Monsieur le Président, vous avez souhaité toujours beaucoup de transparence dans votre état de santé, donc il faudrait qu'on vous demande si vous pensez aujourd'hui continuer votre activité ou si vous avez songé à les abandonner, à démissionner.
Donc j'ai pas encore songé, non ? Non, il n'y a pas de raison. Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car c'est pas de ce côté-là que ça se passe.
Dimanche 20 septembre, journée du scrutin. Les médias offrent le spectacle habituel du vote des personnalités politiques et à 20h, les premiers résultats tombent.
Comme je vois que tous nos confrères des télévisions donnent déjà le résultat, je pense que nous pouvons appeler Roland Quayrol depuis le CSA. C'est le oui qui l'emporte.
Et oui, c'est le oui qui l'emporte. Oui, 51,5. Non, 48,5. Je répète, oui, 51,5. Non, 48,5. Il y a par ailleurs 29% d'abstention et 2,4% de bulletins blancs et nuls. Donc le oui l'emporte en effet, vous le voyez, mais c'est un petit oui, 51,5.
51,04% pour le oui, sur le fil du rasoir. L'avance n'est que de 540 000 voix. Et la participation est exceptionnelle, avec près de 70% des inscrits qui ont voté. Et l'on s'aperçoit que le camp du non est largement ancré à gauche et chez les populations les plus fragiles. Tendance que d'autres consultations sur l'Europe viendront confirmer plus tard. Mais sur le coup, ce résultat reste bien sûr une victoire et un soulagement pour le chef de l'État qui intervient à l'Élysée vers 22h30.
Imaginez maintenant la joie des pays de la communauté
Vos amis les plus proches, qui attendaient de nous le signe dont ils avaient besoin. Imaginez la joie des autres pays européens, presque tous, qui aspirent à nous rejoindre, surtout ceux qui ont été si longtemps privés de liberté.
Le débat sur le traité de Maastricht aura profondément marqué l'esprit des Français, à gauche comme à droite, tout comme les aura marqué la campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel de l'Europe, cet espace géopolitique si prometteur hier, qui aujourd'hui pourtant semble être à l'origine, à tort ou à raison, du malaise des peuples européens. Malaise économique, crise de la dette, déficit public, chômage, flux migratoires, technocratie de Bruxelles et surtout déficit démocratique, peut-être l'échec le plus patent du rêve européen. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste?
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le traité de Maastricht, notre invité Laurent Geoffrin, bonjour.
Bonjour.
Directeur du journal Libération, notre partenaire depuis des années maintenant. Oui. Enfin, depuis 4 ans, quoi.
Délicieux moment.
N'est-ce pas? Alors, vous souvenez-vous de cette phrase, Laurent Geoffrin, signée François Mitterrand? Pour ceux qui sont d'accord avec le fond, en tout cas, elle est magnifiquement exprimée. Il disait, François Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Vous vous souvenez de cette phrase?
Oui, absolument, bien sûr.
Alors, l'étape de Maastricht, finalement, c'était quoi dans l'esprit de ses promoteurs, François Mitterrand? D'ailleurs, restons sur François Mitterrand. Était-il, selon vous, le grand architecte de cette Europe-là? Est-ce que c'est lui qui donne l'impulsion?
Non, oui, il a joué un rôle décisif, mais ils sont deux.
Kohl.
Helmut Kohl et François Mitterrand.
Ouais.
Il faut bien comprendre leur motivation. La première motivation, on l'oublie toujours ça, ou on le dit comme une référence lointaine,
la
qu'on
paix.
Oublie.
C'est ça.
C'est que ce sont des gens qui sont nés avant la guerre.
Ouais, bah oui.
Et qui ont passé leur enfance, leur jeunesse, dans des pays ruinés. Kohl surtout, et Mitterrand aussi. Et même chose dans beaucoup d'autres pays européens. Et les conseillers qui sont autour d'eux, les ministres, ils sont nés soit comme eux, ils ont le même âge, soit ils sont un peu plus jeunes, donc c'est la génération d'après. Ils sont nés juste après la guerre, donc dans le souvenir de la guerre. Ils ont vu leurs parents, ils ont entendu parler, ils savent. Ils ont vu les ruines, les pays démembrés, enfin,
les inflations galopantes, enfin,
ils ont vu ça,
les brouettes de billets,
ils l'ont vécu. Et donc c'est le but principal de cette construction. C'est le but essentiel même. Plus jamais ça. Plus jamais les grandes nations européennes, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, etc., ne se battront entre elles. Et alors, vous avez terminé votre excellent commentaire sur le mot échec. Mais non, c'est une réussite formidable. À l'échelle de l'histoire, j'entends.
Non, à l'échelle
de la longue histoire.
Non, la dernière phrase était le déficit de démocratie est-il l'échec le plus patent de l'Europe ? Ça ne veut pas dire que l'Europe est un échec.
Je viendrai à la démocratie, justement. Ouais. Mais je termine juste sur la paix. Et c'est un argument décisif et faible. Pourquoi ? Parce que ça a réussi. Il n'y a pas eu de guerre depuis la création de l'Union européenne.
Alors, est-ce lié à l'Europe ?
Ben, avant, il y en avait.
Oui, d'accord.
Et oui. Et puis, tant que ces pays sont liés par des traités, qui se voient tout le temps, qui négocient, etc., comment voulez-vous qu'il y ait une guerre ?
Bien sûr.
Pour qu'il y ait une guerre, il faut d'abord que l'Europe se défasse. Que les États-nations, soi-disant panacées, reviennent. Tant qu'ils ne sont pas revenus à l'état antérieur, le risque de guerre est nul.
Mais vous avez raison de dire mais que les c'est gens un argument oublient. Fort, mais qui ne porte plus
non,
parce qu'on est habitué à la paix.
Ils s'usent, parce que comme c'est la paix perpétuelle,
bien sûr.
Les gens pensent que c'est l'état naturel. Donc quand on dit, vous savez, l'Europe s'est fait pour la paix, merci, d'accord, j'ai compris. Oui, c'est la paix, on connaît. Et on a toujours vécu ça, les générations d'aujourd'hui. Et donc, pour eux, ça ne compte pas.
Bon, c'est bien de le rappeler.
Bah oui, alors... donc c'est une grande réussite de ce point de vue-là, déjà.
D'accord.
Deuxième point, là, vous me parlez de la démocratie, du déficit démocratique.
Ouais.
Le traité de Maastricht, d'ailleurs vous l'avez rappelé, a été signé sur une base entièrement volontaire. Personne n'a été contraint. Un seul pays aurait dit non, le tout s'effondrait. Donc c'est vraiment la volonté des élus, en tout cas, qui étaient élus démocratiquement. Donc il n'y a pas de déficit démocratique.
Dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement.
Mais dans le fonctionnement, le traité de Maastricht, vous l'avez sans doute relu, enfin regardez les grandes lignes en tout cas, il prévoit que le Conseil européen est l'instance essentielle. Il y a la Commission qui propose. Il y a le Parlement qui discute, qu'on consulte, qui a quelques pouvoirs.
Oui, enfin qu'on consulte, qui a quelques pouvoirs.
Quelques pouvoirs, peu, mais donc ce qui décide, c'est le Conseil. Qu'est-ce que c'est que le Conseil européen ?
C'est les chefs d'État.
C'est les chefs d'État. Ces chefs d'État sont élus. Et ils ne prennent aucune décision qui n'est eux-mêmes approuvée.
Oui, mais... Donc,
quand on nous parle de la dictature européenne, du diktat, c'est du vent. C'est du flan. Il n'y a pas une seule décision prise à l'échelle européenne que les États auraient pu refuser.
Les États donnent avec leur chef d'État ou chef de gouvernement les directions. Mais ensuite, les mesures qui sont prises concrètement... C'est pris par Bruxelles aussi. Bruxelles est à la fois une instance.
C'est quoi ? Bruxelles, lui, c'est trois choses. C'est le Parlement européen, c'est le Conseil européen et c'est la Commission. C'est ça, Bruxelles. Donc, qui décide, c'est le Conseil européen.
Bon, mais est-ce que c'est...
Donc ce sont des instances élues. Et pareil, je termine juste sur les démocraties. Quand un pays ne veut pas appliquer une directive, il doit sortir des traités. Mais quand il sort des traités, personne ne leur dit rien. Les Anglais viennent de sortir. Il y a eu quoi ? Il y a eu des sanctions. On a envoyé les divisions blindées, les escadrilles, pour les obliger à rester dans... Pas du tout. Les Anglais sont libres. Ils ont choisi de sortir, ils sortent.
Et ça se fait.
Alors, il y a beaucoup de problèmes, mais il n'y a pas de... Il n'y a aucun empêchement.
Alors, je ne sais pas si l'on parle exactement de la même chose. Dans son fonctionnement entre pays, effectivement, c'est démocratique. Mais dans le rapport entre le citoyen européen et les décisions qui sont prises, de façon souvent technocratique par Bruxelles, parce qu'encore une fois, le Conseil européen donne les directions, mais les décisions prises concrètes,
elles sont souvent... S'il n'est pas d'accord avec un texte, il le fait changer. Il n'y a pas de problème.
Bon, alors...
Pourquoi c'est à l'ère technocratique ? Parce que c'est à deux niveaux. C'est un niveau national où on élit un président, une majorité en tout cas. Et puis, ce sont eux qui négocient, par délégation. Donc là, c'est plus lointain. Et puis, c'est vrai que ensuite, il faut écrire les lois, il faut faire appliquer les règlements. Et puis, il y a d'autres instances. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a la Banque centrale européenne. Tout ça, ça paraît comme un magma incompréhensible. Mais dès que vous y plongez un peu, on voit très bien la philosophie. C'est qu'on ne veut pas abandonner la souveraineté des États, contrairement à ce qui est dit. Quand Seguin dit, vous savez, il faut choisir entre la souveraineté des États et le fédéralisme. On n'est pas dans le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est comme aux États-Unis. C'est-à-dire que vous élisez un président, il a un certain nombre de pouvoirs, mais ces pouvoirs-là, il les a en propre et personne ne peut les lui disputer.
États-Unis d'Europe. En gros, Ce serait ça.
Oui, mais on n'y est pas. Oui,
il n'y a pas. Bon,
il aurait fallu que dans le traité, ça, il y ait marqué États-Unis d'Europe. Oui, oui. Là, c'est fédéraliste.
Ça, ni vous ni moi, nous ne sommes pas pourtant très vieux, mais nous ne connaîtrons probablement les États-Unis d'Europe.
Non, parce qu'encore une fois, c'est à l'échelle du long temps, du temps long, pardon. C'est le temps long qui compte. Alors, dans le temps long, on a affaire à des nations qui viennent du fond des âges, qui ont toujours été indépendantes, sauf quand elles étaient envahies par le voisin. Mais autrement, elles étaient indépendantes. Elles ont une culture, une langue, une identité très forte. Donc c'est très difficile de mettre ensemble des entités aussi différentes. Donc c'est un miracle, d'une certaine manière.
Dernière question sur la démocratie. Est-ce que c'est démocratique que d'imposer des critères de convergence, d'ailleurs pas dépasser le déficit public supérieur à 3,5% du PIB, dans la mesure où ça génère quand même des problèmes sociaux? Est-ce que c'est vraiment démocratique, ça, d'imposer? C'est un diktat, quand même.
Mais non, puisque ces critères ont été proposés par la France.
D'accord.
C'est les Français qui se plaignent de l'existence du critère. C'est quand même gonflé. Mais c'est vrai. Jacques Attali a dit, il faudrait trouver un déficit maximal. Les Allemands ont dit, non, c'est horrible, les déficits, vous vous rendez compte, c'est l'inflation, c'est Hitler, c'est parce qu'il y a eu une hyperinflation en Allemagne dans les années 20, donc ils s'en souviennent. Donc il dit, il faut que les budgets soient équilibrés.
Ce
qui est pas forcément idiot sur le long terme. Il vaut mieux que les budgets soient équilibrés plutôt que déficitaires. On se retrouve avec une dette de 100% du PIB, quand même. C'est quand même un peu gênant. Parce qu'on paye des remboursements pendant ce temps-là. C'est des générations futures qui vont supporter le poids. Donc c'est pas si simple. Il y a qu'à faire des déficits. C'est facile à dire. Donc on a mis un critère à 3% du produit intérieur brut. Mais là aussi, il y a une illusion. 3% du PIB, ça fait beaucoup, en fait, par rapport aux recettes de l'État. Ça doit faire 15 ou 20%. Donc tous les ans, on a un déficit de 15. C'est comme si vous aviez tous les ans 15% de dépenses en plus de vos revenus. Ben, vous n'avez pas allé très loin.
Si c'est pour la bonne cause, votre banquier, ça s'appelle l'investissement.
Oui, mais votre banquier, vous avez dit non, là, ça va.
Mon banquier, c'est mon banquier.
Deuxième partie de la réponse. La France est restée ces dernières années, pendant 7-8 ans, avec un déficit très supérieur à 3%.
Oui.
L'Europe a dit oui, c'est un peu gênant, vous faites un effort, vous pouvez pas faire mieux, etc. Et ça a duré des années. Donc c'est beaucoup plus souple qu'on le dit. Et par ailleurs, la Banque Centrale, au début, dans la première période, après Maastricht, donc Maastricht a créé la Banque Centrale chargée de gérer la monnaie européenne. Donc ils ont nommé Trichet, Jean-Claude Trichet, qui était le gouverneur. Son obsession à lui, c'est que l'euro soit respecté.
Oui.
Pour qu'une monnaie soit respectée, il faut qu'elle soit forte. Donc on a eu les effets pervers ou mauvais d'une monnaie forte. Mais il y a la monnaie faible aussi, ont des effets pervers.
Oui. Les monnaies fortes ont des effets pervers sur l'exportation, notamment.
Sur l'exportation, et puis le taux d'intérêt était trop élevé, donc ça ralentissait l'activité. L'argument de Chevènement sur le chômage n'est pas entièrement dénué de fondement. Parce qu'on met ensemble des économies différentes. Donc quand une économie est très forte et l'autre un peu plus faible, la très forte dit, la monnaie, on n'y touche pas, et l'autre dit, si on dévaluait, ce serait plus facile. Mais à partir de l'arrivée de M. Draghi, ça a complètement changé. La Banque Centrale Européenne a fait une politique totalement opposée. Elle a créé des liquidités indéfiniment. Elle a sauvé d'ailleurs la mise au capitalisme mondial quand même dans cette affaire. Et les taux d'intérêt se sont effondrés. Donc l'argument de la monnaie forte et l'euro a commencé à baisser. Donc l'argument de la monnaie forte a disparu. Ce qui tend à montrer que les institutions européennes, même indépendantes comme la Banque Centrale, même orthodoxes et tout ce qu'on veut, libérales, machin, etc., elles sont beaucoup plus pragmatiques qu'on ne le dit. Parce que elles ont fait une politique de création monétaire hallucinante, quand on réfléchit. Aucun État n'aurait pu le faire. Il fallait s'appuyer sur des économies très solides comme l'Allemagne, comme les pays du Nord, pour se permettre de créer autant de monnaie. On a fait une politique qui est comparable à la Banque Centrale américaine, parce que c'est la plus grande économie du monde. Donc cette idée d'une rigidité absolue, d'une orthodoxie à tout fond, elle s'est effondrée, parce que c'est pas vrai. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis 10 ans. C'est pas vrai. Voilà. On parle, mais on dit des choses fausses.
Alors, ça veut dire que tous ceux qui considèrent que l'Europe n'est pas à l'origine de tous les problèmes, mais qu'elle est à l'origine comme d'un certain nombre de problèmes, se trompent. C'est ça,
non,
ça
veut dire. Oui, mais il faudrait comparer avec, comme vous le faisiez d'ailleurs, avec la situation qui prévaudrait s'il n'y avait pas d'institution européenne. Ça irait beaucoup mieux. Moi, je veux bien, mais je constate, là aussi, il faut parler des choses qui existent, pas seulement des fantasmes ou des rêves. Quand la Grèce fait un référendum, faut-il accepter les conditions de Bruxelles? Il y a eu ce référendum. Le peuple vote non. On n'accepte pas. Alexis Tsipras, revient 3 jours après devant les Européens, et les Merkel et Hollande lui demandent, bon alors, tu veux sortir? Il répond non.
Non,
bien sûr. Je ne veux pas sortir. Pourquoi il répond non? Alors évidemment, il y en a qui disent, c'est un traître, c'est un vendu, je ne sais quoi, c'est un peu court. Pourquoi il n'a pas voulu sortir? Parce qu'il s'est dit, à juste titre. Si je sors de l'Union européenne, je n'accepterai pas les conditions qu'on me fait. Mais je me retrouve avec qui ? Avec le Fonds monétaire international et avec les marchés, en direct.
Ouais, sans le filtre, sans la protection sans le filtre, oui, de l'euro. Voilà.
Sans l'euro et sans la Banque Centrale Européenne et sans les partenaires qui étaient là pour aider, à condition que la Grèce fasse beaucoup d'efforts, qui étaient douloureux, cruels même. Mais il a préféré rester dans l'Europe. C'est bizarre, non ?
Alors,
vous ne trouvez pas ça bizarre ?
Les Italiens.
Vous qui êtes si eurosceptique.
Pas du tout. Je vous pose des questions et je me fais le porteur des eurosceptiques puisque vous êtes, vous, un avocat de l'Europe.
Mais je défends le. Ben voilà, donc je vais pas,
voilà. pas défendre.
C'est pas le mien d'ailleurs, qui est l'intérêt, à mon avis, de beaucoup de gens.
Bon. On va écouter quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il était. C'est Philippe Séguin, hein, dont on a beaucoup parlé. C'est vrai qu'il a eu du talent dans la défense
de
ses idées contre cette Europe-là.
Il disait brillamment des choses fausses.
Il martèle une idée, alors vous allez entendre. Dès le soir des résultats du référendum, rien ne sera plus comme avant. Bon, c'est facile de dire ça quand il y a un événement historique. Forcément que rien ne sera plus comme avant. Mais comment ce sera ? Réponse.
Je constate que le peuple français s'est exprimé, qu'il a choisi de sortir d'une alternative absurde en exprimant sa sympathie pour l'idée de la construction européenne plutôt qu'en portant les derniers coups à un traité dont la nocivité est avérée désormais à ses yeux. C'est probablement qu'il avait conscience au terme de cette campagne que rien désormais ne pourrait plus être comme avant. Ni pour la construction européenne, ni pour le débat démocratique en France. Le traité de Maastricht sort en charpie du débat et du scrutin référendaire français. Et d'autres peuples européens sont prêts à prendre la relève pour parachever le rejet d'un mode de construction européenne que les gouvernants seraient mal inspirés de s'obstiner à promouvoir. Les Français ont fait, quant à eux, la démonstration de leur volonté de reprendre en main leur destin et d'imposer le grand retour du politique contre toutes les dérives conservatrices et technocratiques.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ben, je constate que ce traité en charpie, 26 ans après, il est toujours là.
Bon, dites-moi.
Il est toujours là, la monnaie unique est toujours là.
Ouais.
La Banque Centrale est toujours là.
Bien sûr.
Le Conseil européen est toujours là. Mmh. Le Parlement européen a plus de pouvoir. La Commission continue à travailler. Et je constate aussi que, il y a, pour revenir à l'actualité, vous avez un gouvernement populiste.
J'y arrive.
Nationaliste en Italie, il n'a pas demandé à sortir de l'euro, je n'ai pas vu.
Il n'a pas demandé à sortir de l'euro, effectivement, je l'ai voulu dire quand vous parliez de
l'Europe. Et d'ailleurs les opposants, ils sont marrants parce qu'ils disent on est pour l'Europe. Il n'y en a pas un seul qui dit je suis contre l'Europe. Alors qu'en fait, ils sont contre. Mais
ça,
ils sont pour.
Ça, Laurent Geoffrin, c'est peut-être partiellement faux.
D'accord.
Il y a des gens qui disent,
on est contre le traité, qui est la seule chose qui existe, et on est pour l'Europe, qui n'existe pas, en dehors du traité. Le traité, il n'y a pas d'Europe.
On peut très bien être pour l'Europe, mais pas cette Europe-là.
Mais laquelle? On est pour un projet complètement nébuleux, contre un projet qui existe.
Alors expliquez-moi, Laurent Geoffrin, maintenant.
Il faudrait expliquer quelle. Et d'ailleurs, quand on demande vraiment maintenant, parce que maintenant, ils ont jeté le masque. Les anti-européens, ils disent on est contre l'Europe, on est pour l'État-nation, la souveraineté française, point.
Pas tous. Certains, oui, d'autres, non.
Mais enfin, c'est le pot de fer, le pot de terre, vous allez voir. Regardez, c'est l'extrême droite qui est la plus cohérente. Elle dit non, on est nationaliste, donc l'Europe, on n'en veut pas. Voilà. Et alors, vous avez des gens de gauche qui disent oui, mais moi, comprenez-moi, je suis pour l'Europe, mais contre le traité, machin, là, ça ne pèse rien.
Alors,
ça ne pèse rien.
Expliquez-moi.
C'est les nationalistes qui gagneront dans cette bataille.
D'accord. Alors expliquez-moi, Laurent Geoffrin, pourquoi, alors que dans ce cadre de l'Europe, à vos yeux, démocratique, porteuse des valeurs démocratiques, les partis d'extrême, notamment d'extrême droite, sont de plus en plus forts partout en Europe, y compris en France. Je rappelle qu'on a un mode de scrutin qui nous permet d'en avoir très très peu à l'Assemblée. Hein, mais enfin bon, si on avait un mode de scrutin comme les autres, on en aurait. Voilà. De l'extrême droite. Alors, pourquoi dans ce cadre de l'Europe,
je pense qu'il y a
que vous
raison.
Défendez, on se retrouve là.
Il y a deux raisons s'agissant de la France. Il y a d'abord la persistance d'un chômage de masse que les Européens n'ont pas su... Enfin, les Français d'abord, ça échoue quand même au gouvernement français, successif, et que les Européens n'ont pas su réduire. C'est pas vrai de tous les pays. Hein. En Allemagne, il y a très peu de chômage. Dans les pays de l'Europe du Nord, il n'y en a pas, pratiquement. En Grande-Bretagne, il y en a moins, etc. Mais bon, c'est comme ça. Donc les gens pensent que, en partie à juste titre, que cette politique économique, ou cette absence de politique économique, comme on veut, a conduit à un chômage de masse. Donc ils sont mécontents à juste titre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'immigration.
Alors,
c'est l'immigration qui est le levier principal des partis nationalistes en Europe.
Et c'est ce et qui ça, explique la faiblesse en Italie, ce qui explique
oui,
la...
non, bah, évidemment. Bah, et ça explique la naissance d'un parti d'extrême droite en Allemagne dont on pensait qu'elle en était absolument guérie, quoi.
Vaccinée.
Et parce qu'il y a eu cette grande vague migratoire il y a 2 ans et que l'Europe a mal géré, elle a essayé, mais là, on impute à la Commission ou bien à Bruxelles des absences de décision qui ne sont pas entièrement dues à Bruxelles. C'est que...
Mais alors, à quoi sert Bruxelles? Bruxelles,
attendez, mais je vous explique. Aurait pu...
Attendez, j'avais une question à vous poser d'abord. Allez. Par rapport à la crise migratoire, la Grèce, l'Italie et Malte, mais surtout l'Italie, on les laisse quand même un petit peu se débrouiller.
Oui, parce
ça
que...
fait monter
parce
l'électorat...
qu'on a des réflexes nationalistes.
Ça fait monter l'électorat de l'extrême droite en Italie, et maintenant on montre l'Italie du doigt. Est-ce que le rôle de l'Europe, c'était pas justement de répartir? À quoi sert l'Europe si elle n'arrive pas à répartir l'effort dans la crise migratoire? À quoi
elle sert? S'il y a des États-nations, ça sera encore pire.
Bon, peut-être, enfin bon.
Oui, mais c'est ça la question. Oui, c'est la question.
Là, on est en Europe.
Vous avez des pays qui sortent, comme la Grande-Bretagne.
Hmm?
Soit on est États-nations, soit on est dans l'Union Européenne. Il n'y a pas de milieu, là. Donc c'est, effectivement, l'Europe a été impuissante en matière migratoire. C'est absolument vrai. Elle a essayé, elle a créé des institutions comme Frontex, mais qui est toute petite. Elle a essayé de faire des accords entre des pays qui ont des visions très contradictoires. Parce que quand vous allez négocier avec les pays de l'Est, qui sont dans l'Union Européenne, ils vont répondre, de toute façon, les musulmans, on ne veut pas. Pas un. Voilà, on voudrait vous en donner quand même, enfin, vous accueillez 20 000. Non, on ne veut pas. Pas un seul. Zéro.
Alors,
nous, on est des chrétiens, on ne veut pas de musulmans. Alors, quand vous avez ça en face de vous, à Bruxelles, comme vous dites, vous avez un problème, là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas les forcer. Encore une fois, c'est une union volontaire, donc on ne peut pas les forcer. Et donc, eux, ils en prennent zéro, déjà. Donc, c'est réglé. Alors, donc, les autres pays se disent, bon, bah, alors, c'est nous qui allons nous y coller, c'est conforme à nos principes. Et alors, il y en a qui font, comme l'Allemagne, Merkel, et puis d'autres qui font moins. Mais Merkel qui fait plus... C'est elle qui a un parti d'extrême droite. Donc vous avez une ça s'auto-alimente. Et effectivement, dans un monde meilleur, en tout cas, sinon idéal, les principaux pays européens auraient dû se regrouper et pondre une politique cohérente en matière migratoire, humaine d'une part, c'est-à-dire conforme aux valeurs européennes, mais en même temps qui fasse la distinction entre les immigrés qui ont vocation à s'installer ici et ceux qui n'ont pas vocation.
Dernière chose, Laurent-Geoffroy, ça va vite, puisqu'on parlait d'élite démocratie, je vous rappelle quand même que le traité constitutionnel de 2005 a été rejeté par la France, notamment, et qu'on lui a mis en lieu et place un traité de Lisbonne. Hein. Là, on a quand même piétiné la volonté démocratique d'un pays important comme la France, quand même.
Vous exagérez.
Bah, Lisbonne,
vous exagérez.
Pourquoi j'exagère?
Parce que, comme vous l'avez remarqué, le traité de Maastricht a été adopté par 3 pays par référendum, mais tous les autres sont passés par les parlements et les gouvernements. Le traité de Lisbonne est passé, comme le traité de Maastricht pour plein de pays, par le gouvernement et le parlement élu. Donc on ne peut pas dire que c'était une invention qui tombait du ciel. Les partis politiques pro-européens sont majoritaires. Donc ils ont dit, on fait le traité de Lisbonne, qui ne change pas grand-chose entre nous. Il donne un peu plus de pouvoir au Parlement européen, ce qui est plutôt bien, le traité de Lisbonne. C'est ça la principale distinction.
Bien sûr. Laurent Geoffroy, je vais être obligé de vous dire merci.
Vous êtes obligé. Vous ne sortez pas obligé.
Maître Geoffroy, avocat de l'Europe. Merci infiniment pour les éclairages que vous nous avez apportés et à bientôt, chers partenaires. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le traité de Maastricht, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.